Et nous sommes toujours ensemble, également sur Média1.com. Merci à vous de votre fidélité. Ce matin, on parle de mythomanie. On fait un zoom sur cette pathologie à recourir aux mensonges sans en avoir conscience. Les mensonges sont alors répétitifs et presque compulsifs. Alors pour essayer d'y voir plus clair avec nous ce matin et comme tous les jeudis matins, Dr Hartmann Lorabi, bonjour.
Bonjour Méliane, mais très heureux de vous retrouver sur les ondes de Média Radio et bien sûr... J'adresse mes salutations aux auditrices et aux auditeurs de Média.
Et ils sont toujours très très nombreux à être fidèles à ce rendez-vous avec vous. Vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Alors d'abord, comment peut-on définir cette mythomanie dont on parle ce matin? Et puis est-ce qu'il en existe plusieurs formes finalement?
Vous l'avez très bien défini, c'est quelque chose qui va se manifester par une tendance aux mensonges excessifs, répétés, pour ne pas dire quasi systématiques. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui mentent tout le temps. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ça peut être quelque chose de conscient ou de presque inconscient, hein, d'automatique, pas forcément quelque chose de réfléchi. Donc c'est-à-dire que finalement le mensonge devient une deuxième nature, une habitude. Alors c'est vrai que principalement au cours du 20e siècle, ça a été considéré comme une maladie à part entière. Oui. Voilà, on parlait de mythomanie comme étant un trouble psychiatrique, mais ça fait bien une bonne quarantaine d'années que la mythomanie n'existe plus comme maladie à part, mais plutôt comme quelque chose qui va être révélateur de troubles plus globaux. Mmh. Donc à ce moment-là, la mythomanie, on va la retrouver principalement dans des troubles de la personnalité assez graves, donc notamment quand on va parler de troubles de la personnalité narcissique ou de troubles de la personnalité borderline ou même de troubles de la personnalité histrionique. Mais ça peut aussi se retrouver dans des cas ou des maladies un peu plus, je dirais, des maladies mentales qui vont se caractériser par des idées de grandeur et le fait d'être convaincu de la réalité de ces choses-là. Bon, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans une pathologie délirante, donc une psychose, mais ça peut correspondre absolument donc à la mythomanie dont on parle et telle qu'on la définit. Il en existait plusieurs types, mais c'est vraiment des types, des sous-types, hein, des sous-types plutôt. Quel est l'intérêt, hein? Il y avait, on parlait de mythomanie vaniteuse, on parlait de mythomanie errante. Enfin, bref, il y a plusieurs sous-types. D'accord. En fonction de l'utilité qui est donnée à cette opération qu'est le mensonge. Et quand on parle de mensonge, c'est toujours dans une interaction sociale, donc c'est vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'autrui. Et si bien que, en fait, on peut constater qu'il y a en fait trois sous-division de mythomanie. Hein. Il y a la mythomanie qui va plutôt intéresser tout ce qui va mettre en jeu le rapport qu'on a à nous-mêmes. Oui. Hein, c'est-à-dire s'inventer une vie plus plaisante, plus satisfaisante à nos yeux, combler certaines de nos failles au niveau de peut-être de la construction de notre ego, etc. Il y a aussi la mythomanie, on va dire, vis-à-vis de l'autre. Hein, ce n'est plus que vis-à-vis du rapport à nous-mêmes, mais vis-à-vis d'autrui. Et là, bah, c'est tout ce qui va mettre en jeu, si vous voulez, comment l'autre nous regarde, comment l'autre nous valorise, comment l'autre va tenir à nous, finalement, ou pas. Et puis, le troisième sous-type, je dirais, c'est tout ce qui va un petit peu affecter notre rapport au réel. Hein, et c'est là qu'on va plus être dans des choses de l'ordre du délire et donc qui vont s'incorporer dans des maladies, dans d'authentiques troubles mentaux plutôt que des troubles de la personnalité.
Alors, docteur Lorabi, c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce qu'on est prédestiné? Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on le devient à un moment ou à un autre de notre vie?
Là, en fait, moi je dirais qu'on le devient, mais cette question revient souvent parce que dans le stade de développement de l'enfance, il y a une période pendant laquelle l'enfant va être plus prompt à produire des mensonges. Là, on parle de choses qui sont absolument physiologiques avant l'âge de 5-6 ans, parce que, pour faire très simple, avant cet âge-là, l'enfant a encore quelques petites difficultés à distinguer parfaitement ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre du réel. Donc, si vous voulez, les mensonges dont on parle quand on parle d'enfants, et c'est peut-être pour ça qu'on a des fois tendance à dire que c'est inné, c'est pas du tout le même type de mensonge. Hein, quand on va parler de mensonges d'adultes, ce sont des mensonges qui vont être non utilitaires, à la limite, voilà, pour éviter de se faire gronder ou pour éviter d'être un peu rejeté par ses parents, mais ça ne dépasse pas cette dimension-là. Donc, on est absolument pas dans le cadre du mensonge pathologique chez les jeunes enfants. Et donc, ce qui me permet de dire que, en fait, ça ne peut pas être inné, mais c'est acquis. Hein, l'utilisation pathologique et excessive du mensonge, on a tous tendance à mentir de temps en temps, là n'est pas le problème. Mais là, quand on parle de ce trouble de mythomanie, on parle de mensonges répétés, automatiques, et c'est quasi, comme je vous le disais, une seconde nature. Et on peut imaginer que, effectivement, bon, ça puisse générer plusieurs problèmes au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau familial, et ainsi de suite.
D'accord. Alors justement, vous venez de le dire, donc on ment tous un petit peu finalement. Comment justement différencier entre un simple menteur et un mythomane ?
Moi, j'ai envie de vous dire que le simple mensonge, à partir du moment où... Enfin, faut pas oublier que quand on parle de mythomanie ou de mensonge, il y a une espèce de dimension morale, hein, qui forcément, on va en parler, parce que le mensonge est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose d'amoral, c'est quelque chose, voilà, ça peut faire, je dirais, on peut être taxé d'être de mauvaise foi, d'être malhonnête, etc. Donc, moralement, quand on est face à quelqu'un qui va user des mensonges, bon, il y a des soucis qui vont apparaître de ce côté-là. Sauf que, justement, toujours par rapport à cette morale, le menteur qui va être pris, qui va être pris en délit de mensonge, en général, on va avoir une correction de son comportement par la suite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va probablement faire des efforts pour ne plus mentir, c'est quelqu'un qui va admettre la réalité de son mensonge et puis il y a un certain repentir, entre guillemets, alors que justement quand on parle de mythomanie ou de mensonge pathologique, il n'y a quasiment jamais, on admet quasiment jamais qu'on a menti. C'est quelque chose on va même peut-être mentir davantage pour justifier la réalité du mensonge. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un cercle vicieux qui va aboutir réellement à des situations, je dirais, relationnelles extrêmement compliquées où, à juste titre, on peut imaginer que la personne qui va se retrouver à interagir avec une personne mythomane va être en proie à des questionnements, à un manque de confiance, etc. Ce qui peut mettre à mal la relation. C'est pour ça que, en général, justement, les mythomanes ne se font quasiment jamais prendre, réellement. Hein. C'est-à-dire que les mensonges sont tellement élaborés et tellement anciens, hein, la plupart du temps, le fait qu'on mette, si vous voulez, au jour, qu'on découvre la nature, je dirais, mensongère des choses qui ont été dites, peut être vécu d'une manière extrêmement dramatique par la personne justement qui a produit ces mensonges, et ça peut vraiment donner lieu à des passages à l'acte. On peut parler de dangerosité, hein, de certaines personnes. Je vous donne notamment l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui va s'inventer toute une vie comme quoi il travaille tous les jours de telle heure à telle heure, tous les jours pendant des années, il sort de chez lui, il prend sa voiture ou les moyens de transport et prétendument il va travailler, etc. Alors que à côté de ça, en fait, c'est quelqu'un qui est au chômage, par exemple. On peut imaginer que quelqu'un qui est dans ce genre de mécanisme, et surtout s'il y a des enjeux relationnels derrière, parce que il y a l'histoire d'estime de soi, de comment on est vis-à-vis de la société, etc. Donc quand ces choses-là vont commencer à s'effriter ou quand la personne est découverte hein, dans son mensonge, il peut y avoir vraiment des gestes violents et des actions violentes, que ce soit à l'encontre de soi-même ou à l'encontre des personnes qui ont découvert le poteau rose.
Oui. Donc le mythomane peut être dangereux, finalement.
Absolument, peut être dangereux, je ne dis pas que c'est la règle, absolument pas, mais justement, quand notamment il y a un trouble de la personnalité, c'est surtout ça qui va conditionner en fait le danger, quand il y a un trouble de la personnalité avec notamment des questions narcissiques, hein, des questions de... des enjeux, pardon, de valeur de soi et d'amour de soi, et comment est-ce que les gens nous mettent finalement sur un piédestal, et ben, quand les choses commencent à s'effriter, on peut imaginer sans peine que pour quelqu'un qui a un trouble de la personnalité sévère, et ben, qu'on puisse avoir des passages à l'acte d'une violence quelquefois extrême.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça peut être la conséquence d'autres maladies quand on parle de mythomanie ?
C'est la conséquence ou c'est l'illustration parmi d'autres symptômes, d'autres maladies ou d'autres troubles de la personnalité. Si bien que, comme je le disais en début d'intervention, la mythomanie comme pathologie pure n'existe plus, en tout cas n'est plus reconnue en psychiatrie comme étant une maladie à part, mais la dimension de mensonges répétés ou de fabulation ou de rêverie incessante, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre dans un cadre plus global, et on arrive effectivement, quand on les met dans un cadre plus global, à avoir déjà un diagnostic qui soit valable et donc une prise en charge qui permette d'être optimiste pour la suite.
Alors, quand est-ce qu'il faut consulter, que ça devient impératif, docteur Asman Lourabi ?
Alors, dès qu'il y a une souffrance, une souffrance...
Donc, si la personne souffre et qu'elle ne le sait pas elle-même, peut-être que l'entourage peut aider également à diriger cette personne vers un spécialiste.
Absolument. Quand je parle de souffrance, c'est effectivement soit chez l'individu concerné, soit chez son entourage. Ça, c'est très important parce que il y a plusieurs cas de figure où la personne n'est pas consciente de la quantité de souffrance qu'elle peut infliger à son entourage, et assez souvent on peut être alerté par l'entourage pour certains types de pathologies. La mythomanie, c'est quelque chose, les mensonges sont conscients dans le sens où la personne sait qu'elle est en train de mentir, c'est pas quelque chose de délirant, et la souffrance, la plupart du temps à ce moment-là, va être plutôt chez la personne, quand ses relations sociales vont se déliter parce que justement plusieurs personnes vont considérer qu'elles ont été trompées ou qu'il y a un manque de confiance ou que voilà, etc. Ben, la personne, quand elle se retrouve toute seule, c'est peut-être là l'occasion de se remettre en question et d'arriver à éventuellement commencer une thérapie pour régler ce problème de mythomanie qui est probablement le symptôme d'un trouble de la personnalité qui est beaucoup plus présent et qui mérite, c'est lui qui mérite une bonne prise en charge. Et donc, justement, par rapport à l'exception des mythomanies délirantes, entre guillemets, c'est-à-dire quand on perd pied avec le réel, tous les autres types, toutes les autres formes relèvent exclusivement d'une psychothérapie, parce que il s'agit de se reconstruire, il s'agit de construire sa personnalité différemment, il s'agit de travailler sur les faiblesses de la personnalité. Tout ça se fait en thérapie, parce que malheureusement, en tout cas pour la mythomanie, il n'y a pas de médicament qui va nous aider à moins mentir et à dire davantage la vérité.
Oui, et il n'est pas trop tard pour essayer en tout cas de se faire aider toutes ces personnes qui se disent « c'est trop tard, j'ai fait que mentir ». Que diriez-vous à ces personnes-là ?
Moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard, que oui, on parle d'action comme ça, oui, il peut y avoir des conséquences, il va y avoir des conséquences. Et de toutes les façons, même si on ne prend pas les choses au sérieux et qu'on décide de se faire aider, il y aura de toutes les façons des conséquences fâcheuses. moi, je pars du principe que notre entourage, ou plutôt nos entourages, sont la majorité du temps bienveillants, que oui, qu'on peut avoir été dans le mensonge et dans le mensonge outrancier, mais que on peut aussi demander pardon, que la confiance, certes, quand elle s'effrite, ça prend du temps pour être reconstruit, mais ça se reconstruit. C'est globalement les messages que je vais adresser.
Merci beaucoup, docteur Atman Lorabi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Vous êtes à Casablanca. Merci d'avoir répondu
Merci
à toutes
vous.
Nos questions sur Média.
Au revoir.
Et c'est un entretien réécoutable, bien sûr, sur notre site media.com.